à la French Connection, épisode 37. Cette semaine, je suis avec Damien.
Bonjour tout le monde!
Et les autres nous ont fait un peu fourbon ou faute de maladie ou d'autres préoccupations familiales plus prioritaires. On va commencer par les Shameless Plug. Isaka, le 26 avril, la place de la gestion de risque était au sein de la gestion des risques organisationnels. Le 26 avril également, Québec Sec, anonymement avait prévu pour sur Internet. Le 25 juin, Hacking in Paris. Et le 30 juin, Nuduhack à Paris aussi. Damien, quelque chose à ajouter pour les deux derniers, avec lesquels moi je suis un peu moins familier?
Bien sûr. Alors là, ce sont deux grands rendez-vous à ne pas rater. Alors, ce sont les plus grands rendez-vous, en tout cas, dédiés à la cybersécurité en France, mais de plus en plus aussi en Europe. Alors, ça sera d'abord le Hacking in Paris, qui se veut un petit peu plus technique, avec une quinzaine de conférences, bien sûr, parlant autour de tout ce qui est technique et hacking, sécurité, hacking éthique, bien sûr. Et le 30 juin, c'est la nuit du hack. Alors là, c'est le grand rendez-vous qui est dédié avec des CTF. Bien sûr, il y a des petites conférences. Il y a aussi, très intéressant, et là c'est plus pour les adolescents, voire les plus jeunes, il y a une nuit du hack des enfants. Donc du coup, c'est quoi? C'est pour les initier un petit peu plus à l'informatique, au codage, voire aussi à l'électronique. C'est franchement à ne pas rater, c'est organisé par Hacker Voice, en partenariat avec Yes We Hack. Vraiment, si vous avez l'occasion d'être en France à ce moment-là, c'est vraiment l'occasion qui vous fera le larron, et je vous promets, non seulement vous allez vous amuser et on pourra se croiser, je suis partenaire depuis plusieurs années à ce rendez-vous et je suis habillé, je l'avoue, en prêtre. Pourquoi? Parce que j'ai le confessionnal Zataz où des gens viennent se confesser, ou en tout cas on rigole, hein, on boit pas mal, on s'amuse. Alors bien sûr on ne boit pas de l'alcool, on boit des jus de fruits, en tout cas on rigole bien. Mais c'est aussi un moyen qu'on a trouvé pour que des gens qui font de l'audit sauvage, qui ont trouvé des choses et qui n'ont pas trop envie d'en parler publiquement parce qu'ils ont peut-être peur des autorités, parce que c'est quelque chose d'un peu grave quand même qu'ils ont pu faire, mais qu'ils veulent aider, la correction de cette fuite ou de la faille, eh bien, ils viennent me voir, et donc, du coup, on parle de tout et de rien, et de leur découverte, et puis, moi, je ne sais pas qui ils sont. Je ne garde pas les empreintes digitales sur les nombreux gobelets de boissons qu'on peut se partager, mais surtout, moi, le lendemain, eh bien, j'alerte les entreprises pour leur dire, voilà, j'ai cette information-là d'un inconnu, il a voulu vous aider, voilà, vous avez tout en main corrigé.
Bon, c'est une session très intéressante, je crois que sur la réexécuter au Hackfest d'ailleurs.
C'est ça, oui, j'ai cru comprendre que je vais faire exactement la même chose, chez vous, cousin du Grand Nord, sauf que là, on ne va pas boire des coups, mais la mission sera de me ramener une poutine.
Avec un énorme plaisir. Cette semaine, commençons avec une nouvelle, puis ce qui est le plus central, c'est essentiellement l'imminence du RGPD qui s'en va dans son application dans presque un mois maintenant, et les différentes manœuvres exécutées, entre autres par Facebook, en déplaçant des comptes ailleurs qu'en Europe.
Ils sont très forts, hein. Ils sont très forts, que ce soit Facebook, Google, Microsoft et compagnie, en tout cas toutes les sociétés américaines. Eh bien, là, clairement, ils ont pris en compte le RGPD. Dans tous les cas, ils n'ont pas le choix. Parce que pour eux, ça sera des pertes potentielles de clients, ça sera des pertes potentielles de légitimité. Et dans tous les cas, ils n'ont pas envie non plus de se retrouver poursuivis par tous les avocats, en tout cas de la planète Europe. Sauf qu'ils sont très malins. Et je prends l'exemple de Facebook qui vient d'annoncer là dernièrement. Ça a duré toute la semaine, hein, au moment donc là, nous, on enregistre ce 21. Donc, toute la semaine avant le 21 avril, eh bien, ils ont affiché des pop-up, des fenêtres dans les téléphones et les ordinateurs des utilisateurs en Europe en expliquant que, eh bien oui, Facebook a un système biométrique et si on souhaite, nous, Européens, l'utiliser, eh bien il faut lui donner son accord, il faut que je lui donne mon accord plutôt pour le faire comme ça. Facebook respecte le RGPD et donc du coup, il prend sa petite canne de pèlerin en disant « Regardez, je fais ça bien ». Sauf que là où c'est très fort, c'est que ce système biométrique était interdit en Europe depuis 2012. Ils profitent du RGPD pour relancer leur système, cette fois-ci en disant « Ah oui, mais attendez, je peux, c'est l'internaute qui m'a donné son accord. » Je vais être très clair avec vous, ne le faites pas. Ne le faites pas, pourquoi? Parce que ça veut dire que ça va être une collecte d'informations par rapport à vos détails biométriques de vos visages. Alors là où il va y avoir un problème, je pense aussi bientôt, c'est qu'on a oublié, c'est qu'au mois de février, ils ont racheté une société, une petite start-up fort sympathique, hein, qui gère quoi? Eh bien, qui gère la confidentialité, mais aussi la manière de rendre vérifiable une pièce d'identité. Et ce qui est très intéressant, c'est que Facebook demande depuis très longtemps aux personnes qui ont un problème avec leur compte, qui a peut-être été piraté. Facebook demande quoi ? Demande un selfie du propriétaire annoncé du compte, et ce dernier doit faire un selfie, une photo de son visage, en montrant en même temps sa pièce d'identité. Ça veut dire qu'ils sont en train de mettre un système qui permettra de dire qu'effectivement, la photo de Damien, avec cette pièce d'identité qu'il est en train de nous montrer à l'écran, c'est effectivement bien Damien, et on lui rend son compte. Mais pour pouvoir faire cette vérification, il va falloir autoriser et valider ce contrôle biométrique. Voilà, en tout cas, il ne faut pas être dupe, les juristes de chez Facebook sont très très forts.
Ben, c'est sûr qu'on possède l'occasion pour ce genre de choses-là. Ce qui est très malaisant, c'est qu'on met dans les mains d'un tiers sans scrupule, parce que si je me base d'un niveau plus national ou dans le contexte où j'ai à travailler, généralement, on va utiliser un tiers de vérification justement qui va servir de une personne qui va assurer qu'on dit bien qui on est vraiment, donc pour faciliter la récupération d'un compte qui aurait été volé. Mais dans ce cas-ci, si on met dans les mains d'un tiers international qui n'est pas sur le même lot que nous autres et qui rapatrie, entre autres, c'est ça qui était peut-être un peu malaise, tous les comptes qui étaient stockés en Irlande, les ont rapatriés aux États-Unis pour que ces comptes-là ne soient pas soumis au RGPD, mais qu'ils soient soumis à la loi américaine. C'est un peu malaisant.
Dans tous les cas, les entreprises américaines ou canadiennes ou suisses ou australiennes rentrent dans les règles du RGPD si dans leurs données, elles contiennent des informations d'Européens. Donc dans tous les cas, elles n'ont pas le choix de prendre ça en main. Mais juste un petit rappel aussi par rapport à nos photos, par rapport à la biométrie, par rapport en tout cas à toutes les données qu'on peut mettre sur les réseaux sociaux, faites-y vraiment attention. Heureusement, nous ne sommes pas des terroristes, nous ne sommes pas des criminels. Mais en face, il existe des entreprises qui se disent peut-être qu'un jour, sa photo, son contenu sera intéressant pour nous. Je prends l'exemple d'une société israélienne, Interogent, qui a été montrée du doigt là dernièrement, c'est par le Forbes, le journal américain, qui a découvert que depuis 5 ans, cette société, à la base elle s'appelait Verint, V-E-R-I-N-T, collectait des photos sur les réseaux sociaux, que ce soit de Facebook, que ce soit sur YouTube et compagnie, pour en faire quoi ? Récupérer les données biométriques pour les rentrer dans une énorme base de données qui, annonce-t-il, permet éventuellement de traquer les terroristes, etc., etc. Sachant que cette société a des appointances, hein, elle est donc en contact avec des services de renseignement un peu partout sur la planète, dont la NSA. C'est intéressant de voir en fait le nombre de personnes, de sociétés qui collectent nos informations sans véritablement nous en demander l'autorisation. Et encore, il y a certainement aussi des entreprises qui le font, et on le saura peut-être dans 2, 3, 10 ans, voire peut-être jamais.
Ouais, avec le dernier scandale Cambridge Analytica, donc ça a jeté une douche froide. Mais en même temps, les gens n'ont pas l'air de pleinement assimiler l'étendue de ce que ça veut dire aussi pour leur protection, à quel point maintenant les éléments bienveillants dans lesquels l'enseignement était des États, maintenant c'est rendu des compagnies privées avec l'objectif de revendre nos informations à qui paye le plus cher.
Juste un exemple, tous les jeux vidéo qu'on peut avoir ou les applications qu'on peut avoir dans nos téléphones portables. Je ne connais pas une seule application qui ne fait pas appel à Facebook ou qui ne fait pas appel aux réseaux sociaux pour soit se connecter pour éviter de rentrer un mot de passe ou alors pour profiter de pièces ou de vies supplémentaires, il faut cliquer sur le petit bouton qui envoie la pub. Voilà, tout ça c'est de la collecte, tout ça c'est du data, tout ça c'est de l'information qu'une fois qu'on a cliqué, on ne la maîtrise plus du tout. Parce qu'il y a celle qu'on fournit, mais il y a toute celle qui est récupérée, qui est analysée juste par notre comportement.
Ouais, celle-là, c'est d'autant plus... c'est excessivement malaise. Il y a un énorme malaise. De toute façon, même des Wi-Fi gratuits me demandent maintenant de se brancher avec des comptes, nos comptes Facebook ou Twitter. Donc, c'est un autre moyen détourné pour venir récolter de l'information que pour un maigre petite bande passante dans laquelle on peut... sauver quelques données sur nos cellulaires. Donc, c'est un drôle de compromis qu'on fait en ce sens-là. Terminons ça. De toute façon, Damien et moi, on va faire un épisode spécial, un deuxième épisode spécial sur le RGPD dans lequel on va aller plus profondément pour passer ce genre de choses-là. Fait que j'ouvre la parenthèse. Si vous avez des questions, tweetez-les, nous envoyez-les. Fait qu'on va peut-être adresser davantage des préoccupations parce que c'est peut-être plus nord-américaine, parce qu'en Europe, ils sont plus familiers, fait que c'est d'autant plus intéressant d'avoir un point de vue des deux côtés. Et entre les deux, je vais pouvoir m'informer aussi davantage sur cet élément-là. Donc, passons à la nouvelle suivante, phishing et compte bancaire.
Oui, alors c'est une information qui est très intéressante, hein, qui est tombée en France, là, fin mars, c'était exactement, si je ne me trompe pas, le 28 avril. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelques années maintenant, hein, un client d'une banque se fait piéger par un phishing, un filoutage, un hameçonnage. Comme d'habitude, hein, le problème, c'est que beaucoup d'internautes reçoivent des informations, regardent le mail, cliquent et se disent « Tiens, c'est bien ma banque qui me redemande mes données login, mot de passe, identifiant, plus double authentification pour rentrer sur mon compte. » Sauf que, bien sûr, cette personne est tombée dans un phishing et a demandé à sa banque « Voilà, banque, je souhaiterais que tu me rembourses. » Sauf que la banque, cette fois-ci, a dit « Non, il n'en est pas question. Nous, on ne cesse de donner de l'information sur notre site Internet, sous forme de publicité, sous forme de mail, en vous expliquant les dangers du filoutage, comment s'en protéger, et surtout, bien sûr, comment ne pas tomber dans le piège. » Cette personne s'est fait avoir, la banque lui a dit « Non, moi, je ne vous rembourse plus. » Le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Dépôt de plainte, il a mis donc cette banque au tribunal. Plainte, le tribunal la première fois le déboute et lui dit non, effectivement la banque a raison, la banque vous a dit qu'elle avait fait un maximum d'informations, nous avons la preuve que oui, non, elle ne vous remboursera pas. Alors bien sûr, le client lésé fait appel, il gagne l'appel et donc bien sûr, la banque, qu'est-ce qu'elle fait? Elle recommence, elle dit non, nous on n'est pas d'accord. Et là, c'était bien donc le 28 avril, c'est la Cour de cassation qui a retenu la négligence grave du client. Ça veut dire quoi? La banque ne remboursera pas la personne escroquée. Elle considère avoir mis suffisamment de sécurité et proposer de l'information pour combattre ce type d'escroquerie. Alors c'est très intéressant parce qu'il faut savoir qu'en France, habituellement, les banques sont tenues de rembourser les clients piégés. Une fraude remboursée dans la mesure où il n'y a pas eu une faute ou négligence des clients. C'est un article de loi. Alors pour ceux que ça intéresse, c'est le L133-18 du Code monétaire et financier. Qui précise ce détail. Si le client n'a pas fait une erreur grave, une négligence ou une faute, la banque rembourse. Sauf que là, les sécurités et les informations successives de la banque ont fait tourner le vent côté banque, et ce qui est intéressant, c'est que ça pourrait devenir une jurisprudence. Ça voudrait dire que toutes les banques, en tout cas toutes les sociétés qui ont informé leurs clients, et que ces derniers se font avoir par du filoutage, eh bien, le remboursement sera définitivement à oublier. C'est plutôt intéressant à suivre, parce que c'est la première fois véritablement que ça tourne dans le sens des entreprises. Je vais être honnête, je trouve ça un petit peu logique dans le principe où effectivement, elles surcommuniquent. D'un autre côté, on a aussi des internautes qui cliquent sur tout et n'importe quoi. Et trouver le juste milieu, et bien malheureusement, c'est la justice qui a tranché.
Ouais, c'est un peu moche que ça soit finalement, on renvoie les gens à leurs propres problèmes. C'est sûr que l'éducation du public est nécessaire. Je trouve que l'effort général des compagnies, les banques et le gouvernement est peut-être un peu insuffisant pour amener les gens à un niveau de compréhension de ce qui s'expose et justement de pas cliquer n'importe où, de pas faire n'importe quoi comme c'est là. C'est sûr que des pénalités financières pourraient inciter les gens, mais en même temps, dans quelle mesure le fardeau doit être à 100% mis sur les individus, je ne suis pas convaincu nécessairement de
cet aspect-là. Ouais, et puis surtout que là, bon, les internautes, on leur explique qu'il ne faut pas cliquer, ou dans tous les cas, vous recevez un mail avec une adresse qui semble être votre banque, et bien vous passez votre souris sur le lien sans cliquer, et tout en bas, par exemple, de votre navigateur ou de votre logiciel de courriel, apparaîtra la véritable adresse. Donc déjà, c'est un petit détail loin d'être négligeable. Ensuite, la banque ne vous réclamera jamais votre login et votre mot de passe ou vos données de carte bancaire. Ben non, c'est à eux, ils le savent, ils le connaissent. Ensuite, pour aussi les internautes, il faut admettre que je vois, moi, de mon côté, de plus en plus de filoutage, de phishing, utilisant des adresses très proches, hein, le fameux typo squatting, mais aussi des phishing utilisant le HTTPS. Et le problème, c'est que les internautes se disent « Ah, mais attendez, moi j'ai vu HTTPS, donc ça veut dire que c'était sécurisé. » Il y a cette espèce de mélange d'informations, de manque de compréhension. Voilà, c'est très très compliqué entre les ultra-techniques qui sont un petit peu intégristes et qui donc du coup, face aux gens qui n'y connaissent rien, se sentent un petit peu rejetés. Et puis les gens qui n'y connaissent strictement rien se disent « Ah, bah attendez, moi on me rembourse, il n'y a pas de problème. » C'est un peu compliqué et je pense que tant que tous ces gens n'auront pas compris que l'informatique et la cybersécurité, c'est avant tout de l'humain, c'est juste discuter, comprendre l'erreur et donc expliquer comment ne plus faire ses erreurs, tant qu'il n'y aura pas ces espèces d'atomes crochus qui voudront enfin pouvoir bien se discuter entre eux, il y aura toujours, toujours ce genre de problème et on le sait très bien, les malveillants, ils profitent de ce petit grain de sable pour pouvoir sauter sur malheureusement les plus fragiles et une fois qu'ils ont mis la main dessus, la punition déjà pécuniaire est loin d'être négligeable parce que malheureusement, ça se touche aussi souvent des gens qui n'ont pas vraiment beaucoup d'argent.
Ah, c'est un problème de société dans lequel le législateur devra probablement se pencher dans les prochaines années pour assurer un équilibre des forces qui est adéquat et s'assurer que les gens prennent leurs responsabilités jusqu'à un certain seuil ou en tout cas du moins s'éduquent pour comprendre ce qui se passe avec ce genre de choses. Passons à la nouvelle suivante. Cette fois-ci, elle est un peu plus comique. Il y a été des personnes ont divulgué que les systèmes de réalité virtuelle, en tout cas, au bout d'un casque de réalité virtuelle, disposent de certaines limitations justement pour éviter que les gens se blessent à l'utilisation étant donné qu'ils portent une lunette qui leur permet de ne pas voir leur environnement. Cette lunette-là a des balises qui empêchent que la personne aille se foncer dans un mur ou aille dans une cage d'escalier et tombe en bas. Il est annoncé qu'il était capable de pirater ces systèmes-là pour enlever ces frontières-là dans le système et justement faire que les gens pourraient potentiellement tomber dans une cage d'escalier ou aller foncer dans un mur à toute vitesse, ne sachant pas que le mur était physique et présent, car le mur virtuel n'existe pas dans la dite lunette. Donc, on n'arrête pas le progrès et le progrès des pirates. Passons à une version ensuite, Cabernac. J'ai essayé de dire ça parce que ça dévie sur d'autres choses. Pour un Québécois, c'est un peu connexe à un autre terme.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les auteurs de Cabernac et de Cobalt, hein, vous savez, ce sont des codes malveillants dédiés, en tout cas, à tout ce qui était données bancaires. Eh bien, le Big Boss, le patron, en tout cas, le Big Boss considéré comme tel, a été arrêté en Espagne. Ce qui est intéressant, c'est que Cabernac, est-ce que c'est vraiment sa fin? On n'en sait rien, parce qu'on sait que ce genre de code malveillant, et pour l'avoir vu, de mes yeux vus, vendu dans certains black markets, permet à n'importe qui de pouvoir lancer son attaque. Assez efficace, sauf que on a cru comprendre que ce code a permis de voler, et je trouve le chiffre complètement fou, 10 millions d'euros, donc je ne sais pas honnêtement combien ça fait en dollars canadiens, ça fait aux alentours de 10 millions de dollars aussi US. Toujours est-il que à chaque casse, à chaque cambriolage utilisé par ce logiciel, les gars ont volé 10 millions d'euros. C'est quand même fou furieux. Alors, il faut savoir que pour retrouver ces criminels, les agents de la police nationale espagnole, ils ont reçu l'aide d'Europol, qui est la police européenne, du FBI américain, des autorités roumaines, moldaves, biélorusses, taïwanaises. Tiens, d'ailleurs, c'est intéressant. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, biélorusses. Ils ont donc, qu'on le veuille ou non, les autorités, quand elles veulent travailler ensemble, donc américaines, et des pays de l'Est, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. La preuve, alors que depuis quelques semaines, encore une fois, on montre la Russie du tout en disant « Oh, les grands vilains pirates sont là-bas ». Ouais, il ne faut pas se voiler la face. Ils sont effectivement là-bas, mais ils sont un petit peu partout dans le monde. Toujours est-il que ceux-là ont été arrêtés en Espagne, et les autorités estiment qu'ils ont pu voler plus de 1 milliard d'euros, donc quasiment 1 milliard de dollars américains, rien qu'avec leur code malveillant.
À peu près 1,5, 1,6 milliard de dollars canadiens.
Ouais, c'est quand même pas mal. Hein, on peut s'acheter une paire de poutine avec ça quand même. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient donc dans leur système, ça permettait par exemple, entre autres, eh bien, une fois qu'ils avaient reprogrammé des guichets automatiques, hein, de billets, eh bien, d'envoyer un gars avec son petit ordinateur devant le guichet automatique et de prélever de l'argent. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques semaines, en France, un internaute, en tout cas, un jeune homme de 21 ans avec son ordinateur devant un distributeur de billets, la police l'a arrêté la main dans le sac, comme on dit chez nous, avec 21 000 euros en liquide. Autant dire que les attaques à la Terminator 2, comme je les appelle. Alors juste pour rappel, pourquoi je dis ça, c'est que j'en parle depuis la sortie du film. Je sais pas pour ceux qui s'en souviennent, John Connor se met devant le distributeur de billets, met un câble dans le distributeur de billets, accroché à un tout petit ordinateur qui à l'époque était en cristaux liquides, un beau petit noir et blanc, il appuie sur un bouton et ça a égrené les mots de passe. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Mais au bout de 30 secondes pour le film, il sort de l'argent liquide et il fait « argent facile ». Ben regardez, à l'époque, il y a quasiment 20 ans, c'était un film de science-fiction. Aujourd'hui, c'est devenu la réalité. C'est pour ça qu'il faut véritablement prendre ce genre d'attaque au sérieux. Effectivement, on peut les arrêter, mais on arrête pour le moment, à première vue, les gens dont on connaît les attaques. Imaginez tout ce qu'on ne connaît pas.
D'autant plus, c'est fou que la fiction rejoigne la réalité de cette façon-là. Travaillant dans le domaine, je ne suis pas étonné non plus. C'est chaud que ça a pris du temps qu'on y arrive, ultimement. Sachant qu'avec la désinvolture avec laquelle on traite la sécurité depuis trop longtemps. Mais des vols de guichets automatiques, c'est fascinant et très intéressant comme façon de faire, qu'on est toujours un peu... ça rejoint l'imaginaire des gens.
Ben, surtout qu'on est dans un pays, en France, qui a quand même inventé la puce sur les cartes bancaires, qui demande un mot de passe pour pouvoir accéder aux distributeurs de billets. C'est toujours intéressant aussi de voir que ce jeu du chat et de la souris continuera encore très longtemps entre les pirates et ceux qui essayent de ne pas être piratés. On peut être aussi épaté par voir la capacité que ces gens ont à réfléchir la malveillance. C'est pour ça qu'il faut véritablement aussi réfléchir malheureusement comme eux pour pouvoir tenter non pas de les arrêter, mais au moins de les freiner un maximum.
Un maximum, mais de toute façon, tout est dans l'argent, un peu comme tu mentionnes depuis plusieurs semaines. Tous les efforts de hack sont très, très orientés vers le mining de Bitcoin, entre autres. On revient toujours au fait que c'est l'argent. Donc, tous les moyens possibles et imaginables pour faire de l'argent sont cherchés par ces individus-là. Et de toute apparence, ils ont beaucoup trop de temps et ils mettent ce temps-là à justement casser des systèmes comme ça. Passons à la nouvelle suivante. Le FDA américain commence à sortir des règles plus précises et plus claires sur les mesures à prendre pour sécuriser les périphériques de santé. Dont Vincent a à plusieurs égards mentionné dans les épisodes précédents dans lesquels ceux-ci sont très importants. Et moi aussi, derrière mon entourage, je connais des gens qui ont des périphériques de santé dans lesquels n'ont aucune capacité de mise à jour automatique ou une mise à jour de leur firmware qui leur permet de protection. Le FDA exige ce genre de mesures-là, incluant d'autres mesures aussi. C'est un premier pas dans une direction intéressante. Il n'est pas dit que c'est un mécanisme-là de mise à jour automatique ou mise à jour tout minimale ne sera pas elle-même vulnérable à d'autres problèmes. Mais supposons que l'encadrement législatif américain soit suffisant pour limiter ce type de problème-là dans le futur. Et il serait fort dommage qu'on puisse commencer à tuer des gens qu'en désactivant les pacemakers ou en ne faisant que débalancer les supports à la vie dans lesquels on a implanté dans les corps de ces gens-là. Et finissons avec une dernière nouvelle, la sixième. Problème technique durant la semaine du 13 avril.
Ouais, c'est ça, c'est avec la Française des Jeux. Je reviens juste sur ce que tu viens de dire à propos de la santé, etc. Et heureusement, pour le moment, il n'y a aucune preuve et aucune capacité de tuer quelqu'un avec l'informatique, le numérique connecté à la santé. Mais il y a un an maintenant, Europol, on en parlait là il y a 5 minutes de cette police européenne, Europol et Interpol, la police internationale, avaient fait une première notice, une première note d'alerte en disant que dans les prochains mois, prochaines années à venir, et pas dans 10 ans, dans 2-3 ans, il risquerait d'y avoir les premiers morts suite à des manipulations malveillantes de matériel de santé, de médecine. Donc voilà, c'est malheureusement loin d'être aussi là de la science-fiction. Donc revenons effectivement à notre dernière et sixième actu du moment. Oui, en France, on a la Française des Jeux, qui est la société dédiée à tout ce qui est paris sportif et aussi l'auto. Alors on a aussi, pour tout ce qui est équitation, le PMU. Mais là, non, on parle vraiment de la Française des Jeux. Alors ce qui est fou, c'est que il y a quelques jours a été annoncée une partie de la privatisation de la Française des Jeux. Ça veut dire quoi ? La Française des Jeux appartient au gouvernement, en tout cas c'est appartient au peuple, mais c'est le gouvernement qui gère ça. Et donc il a été annoncé une petite partie de sa privatisation parce que faire entrer de l'argent, etc., etc. Et bizarrement, quelques jours plus tard, donc, première faille sur le site de la Française des Jeux. En gros, tous les joueurs qui se connectaient au site internet ou sur leur application, ils tombaient non pas sur leur compte, mais ils tombaient sur le compte d'un autre joueur. Cette faille-là, je l'ai vue plusieurs fois cette année sur d'autres sites. Hein. C'est des problèmes de cache, c'est des problèmes, voilà. Sauf qu'ils ont une communication un petit peu particulière. Bon, d'abord, ils ont fermé tout leur site internet. Là, ils n'ont pas cherché à comprendre. Tout a été mis en carafe, tout a été fermé. Où ils ont expliqué que suite à un problème d'affichage, ils étaient en train de corriger. Le problème d'affichage, il est loin d'être négligeable. Hein, de retrouver le nom, le prénom, le mail, le téléphone, quand la personne s'est inscrite et quand elle est à jouer, ce sont déjà des données qui tombent, faut-il le rappeler, à partir du 25 mai 2018, dans le RGPD. Mais le plus grave, à mon sens encore, c'est que 48 heures plus tard, j'ai pu constater une faille sur deux sites internet alors qu'ils n'étaient pas accolés au serveur de la Française des Jeux. Mais c'était des serveurs de la Française des Jeux pour de l'interne. Alors le premier, c'était un site de test où on pouvait quand même avoir accès à 700 applications utilisées par la Française des Jeux, loin d'être négligeable, avec des notes correspondant à chacune d'elles. Mais surtout, un autre espace, toujours pour travailler en interne, alors accroche-toi bien, accrochez-vous bien, c'était un espace en cours de préparation pour former à la cybersécurité le personnel de la Française des Jeux. Sauf que dedans, j'ai pu constater plus de 2000 identités, alors les tokens, hein, très certainement de leur carte d'identification, leur mail, numéro de téléphone professionnel, et bien de qui ? Des employés de la Française des Jeux. C'est quand même un secteur très sensible. Imaginez que si c'était tombé dans de mauvaises mains, on sait si j'étais un pirate, si j'étais un malveillant, eh bien maintenant, qui fait quoi ? Et éventuellement, ça peut tomber dans de la recherche pour du social engineering qui pourrait permettre des escroqueries plus graves, voire même pire. Imaginez, je sais maintenant quelle est telle ou telle personne, moi le pirate qui a pu avoir en main ce genre de données. Heureusement, normalement, non. Hein, ces sites qui ont été montés étaient assez récents. Moi, je suis tombé dessus, je vais être très honnête avec vous, un dork que Google m'a fait apparaître les URL, enfin bref, ça, c'est une autre question. Imaginez si ça avait été dans les mauvaises mains et que la personne se dit « Tiens, donc, Polo, il vit là, il travaille là, donc à la Française des Jeux, et je me déplaçais chez lui, éventuellement, pour une prise d'otage ou je ne sais trop quelle malveillance. » On se rend compte qu'aujourd'hui, le dépassement de ce genre de fuite de données dans de mauvaises mains peut vraiment aller très très loin. Donc voilà. Tout est bien qui finit bien, ils ont communiqué, ils ont été plutôt « cool », entre guillemets, je leur ai envoyé quelques questions, ils ont bien voulu répondre pour, ben voilà, pour jouer transparence, mais n'oubliez pas qu'ici en Europe, le RGPD, mais ça sera pareil pour une entreprise au Canada, hein, qui se retrouve avec une fuite de données d'Européens, il va falloir alerter la CNIL, la Commission Nationale Informatique et Liberté, prévenir l'intégralité des clients ou des personnels impactés par ce genre de fuite. Si mauvaise communication, si aucun outil a été mis en amont, ça pourrait coûter jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise impactée. Bref, voilà, des fuites de données, il y en aura toujours. C'est très étonnant que ce genre de grosse société, d'autant plus étatique, d'autant plus financière, d'autant plus touchant, hein, énormément de Français, se fasse encore embêter par ce genre de choses. Voilà, c'est encore des exemples intéressants. Je pense que tout exemple et toute erreur est surtout un moyen de réfléchir à mieux faire encore. Et ça, aucun doute, la Française des Jeux est tout à fait capable. Et les gens en interne sont des vrais professionnels qui sont capables de réfléchir encore mieux. Mais ça prouve une fois de plus qu'on n'est pas à l'abri et personne n'est à l'abri.
Ah, définitivement. Mais en même temps, c'est très fascinant ces éléments-là. C'est un peu des problèmes qu'on a toujours vus dans le passé qui n'ont jamais été résolus. C'est sûr que toute apparence, même le spectre du RGPD n'a pas mis plus de mesures préventives que ça, mais donc les premières croquis que le RGPD va avoir dans les sociétés vont peut-être mettre un peu plus de prévention et beaucoup davantage de prévention que ce qu'on peut voir jusqu'à présent.
Ouais, c'est ça, hein, c'est voilà, on se retrouve avec des monstres qui sont nos claviers, nos écrans et surtout le code qu'on peut produire. Ce qui est intéressant aussi, c'est malheureusement, là dans ces deux cas, enfin en tout cas pour le deuxième cas, hein, avec ces deux sites internes, c'est que c'était en cours de test. C'est fou de se dire que du test ne se fait pas sur une VM, une virtual machine, que ça ne se fait pas dans un endroit qui n'est pas enfin, qui n'est pas connecté, pour info, hein, ils avaient un domaine qui était certes protégé, mais le sous-domaine, ils avaient oublié de le protéger. Donc voilà, l'erreur est humaine, l'erreur est technique, mais malheureusement, il faut vraiment être super carré, parce qu'on ne peut pas se permettre la fuite de données de ses clients et encore moins de son potentiel public interne, donc ses employés, parce que eh ben, c'est les mettre en danger aussi. Hein.
Ça va changer la donne. En tout cas, on va voir avec comment la jurisprudence du RGPD va changer les choses. En espérant pour le mieux, puis que les premiers paieront pour les suivants. Donc, ça fait l'ensemble de nos nouvelles qu'on a pour cette semaine. Damien, tu peux nous signifier à quel point il fait chaud par chez
vous? Écoute, c'est simple. Hein, là, messieurs, dames, nous avons 30 minutes d'émission. Et quand je regarde mon thermomètre, il fait exactement 30 degrés. Et je suis dans le nord de la France. Nous sommes au mois d'avril. D'habitude, on a encore la goutonnée avec de la pluie. Là, c'est très intéressant, cette météo. Alors, je vous avoue aussi que par chez nous, faire chaud comme ça au mois d'avril, ça veut dire que l'hiver risque d'arriver au mois de mai. J'exagère à peine, hein, mais voilà. Non, c'est très intéressant, en tout cas, pour nous, qui attendons... Alors, c'est très rigolo, hein, quand un Français parle de froid à des amis du Grand Nord, c'est à sourire, hein, ça, je suis très clair. Mais nous, on est super contents. C'est un prémisse d'été, et ça fait super du bien. Donc là, être dans son jardin et enregistrer l'émission... je vous avoue, c'est plutôt sympa.
Ça doit, oui, nous, on a un hiver qui ne veut pas finir, donc on a bien hâte que justement d'arriver dans des états de 30 degrés, puis après on va pouvoir se promener un peu plus.
Ah ben, fermez les yeux et je vous en envoie un peu de température.
C'est bon, fait qu'on conclut l'épisode de cette semaine et on se revoit dans 2 semaines.
Ok, et des gros bisous à tout le monde!